s'en va. Oui.
Dans Romains 6, Romains 6, on lit les trois premiers versets. Faites-moi penser à la fin. Quelqu'un m'a conseillé à la fin d'ouvrir les questions. Parce que des fois, là, tu sais, Romains, je suis conscient, là, puis je pensais à ça. Quand il y a une soif de la parole, on peut pousser plus. Parce que je sais que dans certaines cultures d'église, j'écoutais justement moi aussi quelqu'un prêcher, puis c'était beaucoup « Hey, let's go, let's go! » Puis tu sais, puis c'était des vraies bonnes choses de la parole, puis tout ça, mais des fois, le Seigneur engage plus notre esprit, notre compréhension. Comme là, avec ça, tu sais, puis la parole, c'est varié, là, tu sais, puis c'est pas qu'on est tout le temps full intello, mais ça, ça demande... Le pire, c'est que c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande de penser de la bonne façon. C'est une déprogrammation pour être reprogrammé. Parce que c'est ça, hein? Ah, on est mort au péché. Ah, OK, on peut tout dire ça, tout le monde peut répéter après moi, mais de se voir comme mort au péché, puis vivant pour Dieu, de s'identifier à ça, de vivre selon ça, là, on parle d'une autre affaire. Puis c'est ça qu'on fait ensemble, fait que ça demande. Fait qu'à la fin, là, si je l'oublie, je me suis mis là, ici, là, j'ai mis question, point d'interrogation, je dis, faites-moi penser, si vous avez des questions, ça va être ouvert aux questions. Pas au grand discours de, théologique de 2 heures, mais si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. OK? On lit juste les 3 premiers versets, ça va être le sujet de notre message, l'objet de notre message. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Oh, t'as peur, j'ai ouvert mon affaire. En fait, j'ai-tu vraiment besoin de l'ouvrir? Allô? OK, ben ça va être mieux, hein?
Oui.
Ouais. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et rappelez-vous, on pourrait dire, nous qui sommes morts à la peur, comment vivrions-nous encore dans la peur? Nous qui sommes morts à l'amertume, comment serions-nous encore amers? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On va se pencher là-dessus, cette fameuse question de notre mort avec Jésus-Christ. Et ça, ce qu'on va voir, c'est que c'est la base de notre sanctification. On va voir la semaine prochaine le fruit de ça avec la résurrection, mais là, la base de notre sanctification, là, Dieu, quand il dit « OK, là, voici... » Pour marcher avec moi, grandir en moi, c'est la base, là, vous comprenez, vous êtes mort au péché. Vous êtes mort avec Christ. Donc, on va regarder ça ensemble. Juste une affaire, là, juste notre mort. Un message au complet. Parce que, vous allez voir, c'est riche. Dans l'ensemble, on va considérer les versets 1 à 5, là, partie 1 aujourd'hui, la base, le fruit la semaine prochaine. Mais ça a rapport avec ce que Dieu a fait de nous en Jésus. Et cette fameuse expression « en Jésus », je vais vous dire quelque chose tantôt là-dessus, ça va vous surprendre. D'abord, j'aimerais juste vous dire que Dieu, quand il nous parle de régler le problème du péché singulier, péché en moi, pas les actes de péché que je fais, comment Dieu a réglé le problème des actes de péché que je fais?
Avec son sang.
Le sang. Good. Un bon étudiant. On va te donner un collant. Non, hey, c'est vrai, ça pourrait être un chocolat. Puis, comment il règle le problème du péché?
La croix.
La croix, OK? Donc, avec son sang, c'est pour tous les actes de péché que j'ai fait, passé, présent, à venir, c'est lavé dans le sang de l'agneau. Es-tu lavé dans le sang? On l'a chanté tantôt. La croix, ça s'occupe de moi. De moi, le pécheur, que le péché habite en moi, c'est la croix qui s'occupe de moi. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que quand Christ est mort, je suis mort avec lui. OK? Et donc, si vous voulez, ça s'occupe de mon attachement à ma nature adamique, ce que je suis en dehors de Jésus, là, un enfant d'Adam. Pour les filles, on peut dire Ève, là, mais en fait, bibliquement, c'est Adam parce que ça dit comme par un seul homme, le péché est rentré. Ainsi, tout son péché, la mort s'est répandue sur tous. C'est la crucifixion avec Jésus-Christ qui s'occupe de ça. Donc, Dieu a résolu le problème du fait qu'on ne pouvait pas être accepté par lui, okay, à cause de notre péché, okay, non seulement de nos actes de péché, mais du péché en nous. Dieu ne pouvait pas nous accepter. Étant juste, il ne pouvait pas nous laisser dans cet état-là. Donc, il a résolu le problème lui-même en nous crucifiant avec lui, en crucifiant cette nature adamique avec lui. Et ça, c'est la base, c'est le fondement de si quelqu'un est en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Pour devenir une nouvelle création, il faut que l'ancienne meure. Il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas de mort. Il faut que le fruit qui tombe en terre, il faut qu'il meure. Puis après ça, il porte. C'est pour ça que je vous dis que c'est la base. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'il en ressurgisse la vie. Donc, on ne parle pas de résurrection tout de suite. Puis d'ailleurs, ça en donne bien. Dans l'ordre des versets, ça en parle après. OK? Parce que maintenant, à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, Dieu nous accepte parfaitement, complètement, puis joyeusement. Pas juste, ah, OK, je te tolère, puis... Non, non, Dieu, là, on est dans le bien-aimé, puis toute la grâce de Dieu, tout son amour est déversé sur nous. Pourquoi? Parce que celui qu'il aime, c'est celui qui a créé. C'est le Maxime, Sébastien, Guillaume 2.0. C'est la nouvelle version, OK? La charmante, Annonciata, Marie, Martine. Nouveau en Jésus-Christ, la nouvelle création. Parce que l'ancien, c'était trop problématique, il ne pouvait pas juste le rénover. Il fallait complètement qu'il le fasse mourir. Puis maintenant, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et comme je l'ai déjà expliqué, okay, à cause de ça, on peut dire que nous sommes saints. C'est notre identité. OK? Pourquoi? Parce que à cause de notre crucifixion avec Christ, c'est ce qu'on est devenu par nature. Avant, on était pécheurs par nature, là, on est saints par nature. Parce qu'on a une nouvelle nature. Nous étions pécheurs, nous sommes devenus saints. Et dans les versets 1 et 2, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ah, la question, c'est, ben là, je vais continuer à être dans le péché parce que ça va montrer comment Dieu est bon puis comment sa grâce, là, envers un pécheur comme moi, ça l'abonde. Je lui ai dit, non. T'as une bonne idée en comprenant que la grâce est merveilleuse, mais pas en faire un prétexte pour le péché, loin de là. Tu sais, je veux dire, c'est pas avec une hypothèse de départ qui a du bon sens, la grâce de Dieu, mais t'amènes ça à une conclusion horrible de dire que ça va être un prétexte pour péché. Bon début, mauvaise fin. C'est ça l'idée de loin de là. OK? Parce que ça dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous? Si on est mort à quelque chose, pourquoi qu'on vivrait? On est mort. C'est comme un non-sens. On est mort au péché, comment qu'on vivrait encore dans le péché? Et il faut comprendre que Paul ici nous apporte cet enseignement. Et là, comprenez, là, Dieu, quand il nous parle de ça, là, il nous donne ça, c'est l'enseignement biblique comme étant la réponse. Comme ils disent les Français, « the réponse ». OK? The réponse au problème du péché dans notre vie, c'est que Dieu nous a crucifiés avec Christ. Autrement dit, la question de l'acceptation de Dieu pour nous dans notre vie, dans notre marche avec lui, hein, parce que ça parle de demeurer, de vivre, OK? Donc, on parle ici de notre style de vie, de notre marche au quotidien. Bien, cette acceptation est basée sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce que nous sommes. Donc, on va voir deux vérités fondamentales par rapport à la base de notre sanctification. D'abord, il faut comprendre c'est quoi la signification d'être en Jésus-Christ. Là, au Québec, là, il y a quelque chose de bien plate. Là. Des fois, on dit ça, mais si on fait juste, si on ne dit pas Jésus-Christ, puis on dit juste la fin, souvent, ça sonne comme du monde qui sac. Fait que moi, je dis tout le temps en Jésus-Christ. À un moment donné, j'avais un monsieur qui venait là. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de Jacques? Pas le Jacques qui vient ici là, récemment, là, mais il y avait un Jacques là. Tu vois, je pense que tu étais là, Eric, dans le temps. Je sais pas, distillé, j'étais là aussi. Tu sais, le gars, la voix rauque. Tu sais, c'était un gars, tu vois, qu'il avait pas mal roulé sa bosse. Puis là, quand j'ai dit ça, j'ai dit, quand j'ai pris l'expression en Christ, lui, il en revenait pas. Il dit, hein, il entend ça à l'église, puis ça l'avait pas frappé parce que lui, il est habitué tout le temps à dire ça comme je suis de même, tu sais, comme un Québécois va le dire. C'est drôle, ça avait touché son cœur avec ça. Parce qu'il n'était pas habitué de l'entendre dans un contexte biblique. Mais en même temps, ça nous montre que, tu sais, un Québécois, on associe souvent ça, en tout cas. Fait que moi, je dis en Jésus-Christ, là, mais on se comprend. Quand même que je dirais en Christ, je ne suis pas en train de sacrer. Là. Mais d'emblée, je veux juste clarifier quelque chose. La signification d'être en Jésus-Christ, là, d'abord, il y a quelque chose d'important. Ce n'est pas une simple vérité positionnel. Les gens vont dire, ah, mais ça, c'est, ce qu'on, c'est notre position. Ça, c'est comme quelque chose d'un nuage qui se passe dans le ciel, mais que ça fait pas grand-chose ici-bas. C'est ça, souvent, qu'on donne à l'explication. Ah, c'est une vérité positionnelle. C'est vrai, mais c'est notre position, mais c'est pas notre pratique ici-bas. C'est comme si c'est quelque chose qui est là, mais qui a pas d'influence ici-bas. OK? En fait, je crois que ce concept n'est pas biblique, parce que, de toute façon, ça ne parle pas de vérité positionnelle dans la Bible. En fait, la Bible nous parle de vérité, de mensonge, de vérité, de tromperie, différentes formes de mensonge, OK? Mais le concept de vérité positionnelle, je pense que c'est une tromperie qui nous empêche d'accepter la réalité présente du fait de ce que Dieu a fait avec nous ici et maintenant, là. Être crucifié avec Christ, être mort au péché, c'est pas une théorie, c'est pas quelque chose là-bas dans le ciel, c'est quelque chose qui nous affecte maintenant. C'est notre nouvelle identité. À cause de ça, je m'identifie plus comme un pécheur, je m'identifie plus comme un menteur, comme un colérique, comme un alcoolique, comme une anxieuse. Je m'identifie comme un enfant de Dieu, saint, accepté dans le bien-aimé. Ça change tout, là, parce que ce que je dis que je suis, je vais agir sur... Tu te fais dire de ta vie, t'es un bon à rien, t'es une nuisance, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Tu vas agir comme un bon à rien puis une nuisance. Mais si tu te fais dire par Dieu que t'es aimé, t'es accepté, comment tu penses que tu vas agir? Tu vas agir selon cette position de sécurité. Ça change absolument tout. Puis c'est pas juste une théorie pour plus tard quand on va être au ciel ou juste pour... Tu sais, Dieu donne pas des vérités pour remplir des pages dans la Bible, là. C'est une vérité qui nous affecte, là. Ça a rapport avec notre sanctification, notre marche avec le Seigneur. OK? Et je vous dis, c'est la solution de Dieu pour le problème du péché. C'est pas mince, là, comme affaire. C'est fondamental. Donc, Dieu nous accepte à 100% comme étant une nouvelle créature. C'est notre nouvelle identité. Et c'est notre vraie identité. Nous sommes en Jésus-Christ. Et là, pour certains, ils vont dire, ouais, mais ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre pas dans le cœur. J'ai de la misère à me voir demain. Bienvenue dans le club. Hier, on dit, des fois, on se prend nous-mêmes à se dire, ah ben oui, je suis un pécheur. Non, t'as plus. C'est plus notre identité, pécheur. On n'était pas, les dit. Il parle au passé de pécheur. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, on est saints. Ça, c'est pas se penser bon, c'est reconnaître ce que Dieu a fait de nous. C'est dans l'humilité qu'on... Puis si on a de la misère, on commande à Dieu. Regardez, il va vous dire ce que Paul va vous dire de faire. Là. Paul, il dit, priez là, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints, c'est nous autres ça, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, ouvre-moi les yeux sur ces choses. Je sais que c'est vrai, j'y crois, mais je veux les voir de plus en plus concrètement, puissamment, avec les yeux de la foi. C'est une bonne prière, c'est biblique. Paul priait ça pour les Éphésiens. Et donc, Dieu, montre-moi ce que je suis en Jésus-Christ. Montre-moi du fait que tu m'as dégagé, que j'étais en Adam, puis que maintenant je suis en Jésus. Maintenant, je veux amener sur la question de ce que ça veut dire d'être en Jésus-Christ. Il y a deux facettes que je veux distinguer sur notre salut. Okay? Quand on est sauvé, il y a deux facettes de base au fait d'être sauvé. Quand on est sauvé, Jésus vient habiter en nous. Hein? Son esprit, l'esprit de Jésus, on est scellé du Saint-Esprit. On est maintenant un enfant de Dieu. Jésus vient habiter en nous. Tout le monde est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On l'entend, puis c'est ça. Et l'autre facette, qui est tout aussi vraie, c'est que nous venons habiter en Jésus. Ça, on l'entend moins souvent, puis on est moins habitué. Oui, il vient habiter en nous, mais nous venons habiter en lui. Puis ça, c'est ça, être en Jésus. Et ça, c'est un package deal. Je veux dire, c'est indissociable. T'as un, t'as l'autre. T'es sauvé, Jésus vient en toi, puis t'es en Jésus. C'est ça que ça veut dire baptiser, immerger. Le mot baptiser, quand on dit baptême, baptiser, c'est une translittération. C'est-à-dire qu'on a pris un mot qui est en grec. Si on prenait grec, là, je dirais baptizo par-ci, baptizo par-là, en prêchant sur, pour utiliser le mot baptême. Mais moi, quand je parle en français, je dis baptême. Ça ressemble beaucoup parce qu'on a pris le mot grec et on l'a juste mis vraiment... Tu sais, on y a donné un petit twist français, en anglais, ils disent baptized. Puis en roumain, je pense botezul. Ça se ressemble tout. C'est l'idée qu'on n'a pas voulu changer de mot. On l'a laissé de même. On a donné une twist selon notre langage. On appelle ça une translittération. OK? Mais ça, c'est bon. Mais en même temps, des fois, ça nous fait perdre un peu. Tu sais, on dit baptême, puis on associe ça à quelqu'un qui va dans l'eau. T'sais. L'idée, là, puis je vais vous l'illustrer de même. Tu sais, on dit Jean le Baptiste. On pourrait dire Jean l'immergiste. Jean le plongeur. T'sais, l'idée, c'est être baptisé, c'est être plongé dedans. T'es pris puis t'es mis dedans. Fait que Dieu, quand on est baptisé en sa mort, il nous a pris puis il nous a mis dans la mort de Christ. Puis on est placé, on est identifié, on est mort avec lui. Puis aussi, dans sa résurrection, quand il est ressuscité des morts puis il est en puissance sur la mort, il a brisé les chaînes de la mort, ben on était aussi en lui. Il a brisé la puissance de la mort dans notre vie. Donc, on est baptisé en Jésus-Christ comme ça. Et là, je vais vous dire quelque chose, écoutez bien, sur la fameuse expression en Jésus-Christ. Savez-vous que le Nouveau Testament, pour chaque verset qui stipule que Jésus est dans le croyant, il y en a 10 qui disent que le croyant est en Jésus. 1 pour 10, là! Tout qu'un ratio, là! Je répète, pour une fois, ça dit que Jésus est en nous, 10 fois, ça dit que nous sommes en Jésus. Mais combien l'emphase de nos messages, de nos cantiques, c'est « Jésus est en moi », puis on dit... Mais comment qu'on parle pas beaucoup de « nous sommes en Jésus » pourtant, dans la Bible, c'est 10 pour 1. Puis je dirais que pour les messages, puis les... souvent, c'est du 1 pour 100. Une fois, on parle d'être en Jésus pour 100 qui disent « Jésus en moi ». N'est-ce pas? Ça montre quelque chose, je crois, qui est un reflet de l'état spirituel de notre foi, de notre chrétienté, et je crois littéralement que c'est un peu comme quand dans Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » C'est comme si on reste à la petite école, on reste dans les petits... Parce que c'est vrai que Jésus est en nous, là. Mais ça, c'est la base, puis c'est Dieu, il dit « OK, ça, c'est 10%, là. Mais là, je vais passer 90% à vous dire c'est quoi être en Jésus. Ça, c'est la grande école. C'est le reste. Tu sais, puis on gradue là-dedans jusqu'à l'université en Jésus. OK? C'est ce que Dieu fait en proportion. Il dit, je vais vous parler plus de ce que c'est être en Jésus que Jésus en vous. Parce qu'il y en a un qu'on comprend facilement. L'autre, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Il y a tellement d'implications. OK? Puis je pense qu'aussi, parce qu'encore aux Hébreux, c'était des gens qui étaient supposés de bien connaître les Écritures. Puis tout ça, mais qu'est-ce que l'auteur leur dit dans le chapitre 5? Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas sauvé pour rester au lait de Jésus en moi, mais à passer au plat principal. Tu sais, on n'est pas juste à la petite soupe pour entrer, c'est le plat principal de moi en Jésus. En passant, on a eu un très bon repas hier. Le repas principal était excellent. La soupe aussi était bonne. Mais la soupe, c'est un petit plat de même. Le plat principal, c'était le même. Puis de... Fait que là, voulez-vous du plat principal, là?
Ouais,
on a eu assez d'entrée. Allons-y pour le plat principal. OK, tout ce que je vous dis là, c'est bien beau, mais c'est quoi que ça l'a accompli, le fait que je suis en Jésus, là? C'est quoi ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Je suis content que vous le demandiez. Je suis un peu poli, là, quand même, quand vous posez une question. Vous êtes un peu familier, là. Comment, en fait... Une sous-question, comment Dieu a réglé le problème de l'aliénation entre moi et Dieu? Être aliéné, c'est être étranger. Tu sais, entre moi et Dieu, il y avait un je prends des gros mots compliqués, un schisme, un fossé entre moi et Dieu. Comment Dieu a réglé ça, ce problème-là de distance, d'irréconciliation? Encore, merci de poser la question. La réponse d'Éphésiens 4, ça dit « Et Dieu est... en lui, ok, en lui, ça c'est en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Qu'est-ce que ça nous dit ici, Éphésiens 1.4? C'est que Dieu nous a placés en Jésus avant même qu'on existe. Là, demandez-moi pas toutes les explications et les implications théologiques de ça. Ça serait vraiment long comme message, puis il y a même une partie de mystère là-dedans. On comprend là l'élection souveraine de Dieu versus le libre arbitre de l'homme, puis tout ça. OK, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste ici, ça dit, il y a quelque chose qui est, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on est des robots, puis qu'on n'a pas eu de choix à faire, mais que quand Dieu nous sauve, là, il a vu les choses bien avant nous autres. OK? Puis que avant même qu'on croit en lui, il avait déjà fait une œuvre dont on bénéficiait. Parce que pensez, quand vous avez été sauvés, dans les années 80, 90, 2000, il fallait combien de temps que Jésus était crucifié? À peu près 2000 ans? Bien, déjà, on bénéficiait de cette mort. Alors, quand même qu'on soit né, là, puis même pour Dieu qui connaît toutes choses de toute éternité. Parce que Dieu connaît toutes choses, là, OK? Mais juste pour vous dire ça, nous étions en Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Nous sommes morts avec lui sur la croix. Ça, c'est important qu'on comprenne. Je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. L'apprentissage vient par la crucifixion parce que ça dit que j'ai été crucifié avec Christ. Paul parle de ça au passé. Nous aussi, on n'a pas... Tu sais, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Jésus est crucifié sur la croix, j'étais en lui. Vous rappelez-vous, je donnais l'expression, ça dit qu'Abraham, quand il est arrivé avec la dîme à Melchizedek, c'est comme si Aaron, qui était dans ses reins, parce que tu sais, c'était un descendant d'Abraham, c'est comme s'il avait offert la dîme. Ben, c'est le même principe. Quand Adam a péché, on était en lui, on a péché avec lui. Quand Jésus est mort sur la croix, on était en lui, puis on a bénéficié de sa mort, puis même chose avec sa résurrection. C'est le principe d'identification à notre tête, notre représentant fédéral, pour ceux qui veulent le mot théologique. Mais là, c'est pas notre personne physique, évidemment. Le 2000 ans, t'es même pas né. C'est pas notre personne physique qui est mort avec lui. Non, c'est notre personne spirituelle, invisible. En fait, c'est notre nature rebelle, mort envers Dieu, enfant de Satan. C'est de ça que Dieu s'est occupé en faisant mourir sur la croix. C'est l'ennemi en nous que Dieu a crucifié avec Christ. Et là-dessus, je vous donne, si vous ne croyez pas qu'on était ennemis de Dieu, nous étions morts par nos offenses et nos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est cette personne-là que Dieu a dealé avec à la croix lorsque, en Christ, il nous a crucifiés avec lui. OK? Comme je vous dis, de tout comprendre les implications de ça, ça serait un peu trop long, mais c'est un fait. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons été crucifiés avec lui. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les versets qu'on a lus ici. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, immergés, OK, en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été immergés. On a été plongés dans sa mort. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. On a vécu ça avec lui. On a vécu la mort de Christ avec Christ. Dieu a mis à mort tout en moi qui ne pouvait tolérer dans sa sainte présence. Pensez-vous, quelqu'un qui arrive devant Dieu, « Bonjour, c'est moi. » Je veux dire, on serait pulvérisé. En tant que pécheur, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il fallait que Dieu s'occupe de ce qui en nous, là, il ne pouvait pas tolérer. OK? Mais qu'est-ce qu'il avait? Il l'a tout pris, puis il l'a crucifié, puis enterré avec Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul dit dans Colossiens. « Ayant été au passé, ayant été... » On n'a pas besoin de mourir à nous-mêmes. On est mort avec Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Voyez-vous? En sa mort. Parce que le baptême ici, ce n'est pas le baptême d'eau. OK? C'est le spirituel. Le baptême d'eau illustre le baptême spirituel, mais on a été baptisé en Jésus-Christ. Je relis, là, Colossiens 2:12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, on est mort et enseveli avec Christ c'est complet, c'est accompli, done deal. Il nous a enterrés avec lui. Et c'est ça que on voit, on va tricher un peu, on va lire le verset 4. Vous avez été donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même, pour la gloire du Père, de même que vous marchiez en nouveauté de vie. Surtout le début, là, on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ok, donc, mort et enterré. C'est clair? C'est ce qui est arrivé. Maintenant, ça, comme je vous dis, là, le baptême d'eau fait juste illustrer ça. Tu étais là, mort et enseveli, né de nouveau. C'est ça le baptême. C'est pour ça qu'on baptise d'eau par immersion. On est des immergistes. On plonge. On est des plongeurs. On plonge nos candidats au baptême. Maintenant, ah là, j'ai la question qui tue. Mais comment ça qu'on a tant de misère à croire qu'on est crucifié avec Jésus? Parce que tout le monde ici le comprend. C'est pas une question d'incapacité mentale. C'est pas une question... Savez-vous c'est quoi? Nos raisonnements et nos forteresses puis nos émotions qui s'en mêlent. Parce qu'on se sent pas tout le temps mort au péché. Ça vous arrive? Des fois, vous vous sentez un peu trop vivant au péché, merci. Le péché est là, puis tu as le goût, puis tu sais, voyons donc, il est plus fort que moi. Bon, il y en a un qui est honnête, merci frère. Il y en a-tu d'autres qui, des fois... Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on... C'est parce que des fois, on est là, puis on dit, ben oui, ok, ça dit ça dans la parole, mais moi, je me sens vraiment pas mort au péché, puis vivant pour Dieu. Nos émotions semblent contredire, puis en plus, nos raisonnements. Ben oui, mais tu sais, j'ai toujours été de même, puis moi, tu sais, je suis un gars de même, je suis une fille de même. Puis là, tout ça, puis des forteresses, ça, c'est les gros... Tu sais, les silos bien ancrés, là, dans une route en boîte, là. Tu sais, quand on passe, puis on passe, puis c'est dur de tourner puis sortir de là. Mais là, c'est comme si dans notre tête, là, puis dans notre cœur, il y a des... On a tellement passé par ces chemins-là, c'est... Voyons, c'est dur de sortir de là. C'est pour ça qu'on a de la misère à le croire, parce que notre réalité semble contredire ce que Dieu dit. Mais Dieu le dit, puis c'est vrai. Ce qui contredit, c'est le péché en nous. C'est pas parce que on a deux natures, puis qu'on est encore... avec cette nature pécheresse, non, on est des saints qui pêchent. On n'est pas des pécheurs qui restent pécheurs sauvés par la grâce, on est des saints qui pêchent. Et pourquoi c'est si important? Parce que je l'ai dit tantôt, ce à quoi je m'identifie, je vais agir selon ça. Donc là, quand je ne me sens pas très sauvé puis je vois le péché, je le vois comme un intrus, comme mon ancien maître, comme mon ancienne identité. C'est plus ça mon identité. Ah, j'ai menti bien gros dans ma vie, mais le mensonge n'est plus mon maître, puis c'est plus ce que je suis, un menteur. Ah, je peux mentir, faire des actes de mensonge, mais c'est plus ce que je suis. Ça, là, si j'apprends de plus en plus à m'identifier de même, ben, je vais de plus en plus agir selon ce que je crois. Parce qu'on agit selon ce qu'on croit, puis aussi on agit selon sur quoi nos yeux sont fixés. Si je fixe les yeux sur « je suis en Jésus, saint, accepté, aimé », plus je le crois, plus je vais agir en conséquence. C'est pour ça que c'est tellement important. Puis c'est pour ça que ça dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » C'est pas de vous lever un matin, hey, « là, je vais vraiment essayer fort fort de ne pas pécher. » Ça, là, c'est la meilleure façon de vraiment tomber dans le péché. Parce qu'on essaye, puis là, c'est notre chair, puis on se pète le nez. Non, on ne combat pas avec des armes charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est-à-dire, quand le péché se pointe, c'est reconnaître ce que Dieu dit. C'est plus ce que t'es. C'est plus ton maître. Puis, j'ai un Dieu qui m'aime. Puis, au lieu de t'approprier le péché, de dire, « Ah, Seigneur, tu vois... » Moi, j'ai bien de la misère avec cette tentation-là, puis là, tu l'appropries. Tu dis, ben non, Seigneur. Maintenant, tu m'as donné un nouveau cœur. Puis ce que je suis, là, n'aime pas ce péché-là. Comprenez-vous? Ma chair aime ce péché-là, mais ce que tu as fait de moi, l'aime plus, ça. Fait que si tu t'identifies comme ça, si tu crois que c'est ce que t'es, puis c'est ce que t'es, parce qu'on a un nouveau cœur, on est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Bon, on va agir selon ça. Ça, c'est ce qu'on appelle être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est tout par rapport à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que Jésus ne nous a pas... On a un nouveau présent avec Jésus. Depuis que Jésus m'a sauvé, je ne vis plus de la même façon. J'ai un nouvel avenir, je vais aller au ciel avec lui. Mais savez-vous, vu que j'ai été crucifié avec lui, j'ai même un nouveau passé. Dieu s'est occupé même de mon passé. C'est plus mon passé de menteur, d'anxieux, d'alcoolique, non. Maintenant, c'est mort avec Christ, tout ça. Dieu a mis ça à blanc. Maintenant, je peux dire, Dieu, là, mon passé, c'est réglé. Je suis rendu maintenant. Tu sais, mon passé, ce que j'étais avant, c'était avant. Maintenant, j'ai un nouveau passé. Et là, ça m'amène à la deuxième vérité fondamentale. C'est plus court, ce point-là, mais l'implication de ce que ça veut dire. D'abord, l'explication, j'ai pris le temps de vous expliquer ce que ça veut dire être en Jésus-Christ. Mais l'implication. Si on résume, le sang de Jésus, c'est pour mes péchés, pluriel. Es-tu lavé dans le sang de Christ, tous nos péchés. Son corps qui a été offert sur la croix, c'est pour me changer d'identité. J'étais en Adam, il m'a placé en Jésus. J'étais un enfant de colère, je suis un enfant bien-aimé. J'étais dans le royaume de Satan, je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Ça, c'est par le corps de Christ qui s'est offert sur la croix que c'est arrivé. Okay? Et son esprit en moi, que je marche en nouveauté de vie, mais ça, c'est pour mon changement de vie au quotidien. Ça, on va voir ça la semaine prochaine, la résurrection. On vit, on marche en nouveauté de vie. On va voir ça dans le prochain message. Donc, le sang s'est occupé de ma performance. Hein? Je veux dire, ce que je fais, ce que je fais pas correct, tout ça, lavé dans le sang de Jésus. Toutes mes offenses, tout ce que j'ai fait de pas bon. Puis même ce que je vais faire de pas bon, lavé dans le sang de Jésus. Le sang s'occupe de ça. Le corps de Christ qui a été brisé sur la croix, lui mort, lui juste mort pour moi, injuste, ça règle la source du problème du péché. Moi, le péché en moi, le pécheur est mort avec Christ. Et là-dessus, je vous lis Hébreux 10:10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés, l'idée là, c'est quelque chose. Nous sommes là, tu sais, c'est comme c'est fait, c'est accompli. On peut dire que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé puis c'est réglé. Nous sommes sanctifiés, tiens, placés en Jésus, c'est réglé. Par l'offrande du corps de Christ. Donc, par le corps de Jésus-Christ, on a changé d'identité de pécheur à saint. Et de cette manière-là, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, on est rendu pur et sans tache devant Dieu. Pas juste avec des actes que j'aurais pu faire, mais même moi-même en tant que personne. Je peux, moi, me présenter devant Dieu parce que je suis une nouvelle création. Je suis accepté dans le bien-aimé. Pas juste ma performance, mais ma personne même. On pourrait dire à quelqu'un, « Ah, OK, c'est correct pour ce que tu as fait, je te pardonne, mais je ne veux pas te voir la face. » Mais Dieu, il ne dit pas ça. Dieu dit, je te pardonne pour ce que tu as fait, puis sais-tu quoi? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. Je veux te voir parce que ce que j'ai fait de toi, je l'aime. C'est beau. J'y prends plaisir. C'est ça que Dieu a fait avec nous autres. Puis l'Esprit qui est en nous a échangé notre vie. Tu sais, avant, on vivait pour nous-mêmes. Maintenant, avec l'Esprit en nous, on a des nouveaux désirs. Un nouveau cœur, des nouveaux désirs. Puis de cette manière-là, Jésus s'exprime à travers nous, par la communion avec lui. On porte le fruit de l'Esprit. On a besoin de ces trois-là, le sang, le corps de Christ, puis son Esprit en nous pour avoir la victoire sur le monde, la chair, puis le diable. On a tout pleinement en lui. Je vous donne une petite illustration pour amener tout ça en un point de focus. Lorsqu'on comprend que le Seigneur nous ouvre les yeux sur les vérités qu'on parle, ça nous donne une nouvelle compréhension de quelque chose qu'on fait une fois par mois. Le repas du Seigneur. Ça, je vais vous partager ça, c'est spécial. Écoutez, encore une fois, je pense qu'on a mis l'enfance sur un côté, comme tu sais, je disais, Jésus en moi versus moi en Jésus. Mais avec le repas du Seigneur, écoutez ce qui est arrivé. Qu'est-ce que le sang, le fruit de la vigne, quand on a le repas du Seigneur, ça nous rappelle le sang de Jésus, hein? Qui nous a lavé de nos péchés. Puis, c'est merveilleux, puis on célèbre ça dans le repas du Seigneur. Mais c'est la moitié de la célébration. Puis quelque chose que moi, j'ai manqué vraiment de me rendre compte, c'est quand on prend le pain, qu'on se rappelle son corps, on se rappelle que Christ est mort pour nous, mais aussi qu'on est mort nous aussi avec lui. Donc, on se rappelle que oui, il a payé pour tous nos péchés dans son sang, mais aussi qu'il s'est occupé de nous-mêmes. De notre nature adamique, pécheresse, du vieil homme. Puis on se rappelle qu'à cause de son sacrifice, maintenant, on peut être une nouvelle création créée en Jésus-Christ. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, là ça réfère à Christ, son corps, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Quand on a le repas du Seigneur, on se rappelle Christ, notre pain de vie, Christ qui... on est mort avec lui, il est mort pour nous, on est mort avec lui, et c'est ce qui nous unit ensemble. Nous participons à un même pain. Il est notre pain comme il est notre vie, et c'est ça la célébration du repas du Seigneur. Oui, Jésus est mort pour nous, mais en plus on est mort avec lui, puis là nous autres ensemble on célèbre ça comme étant vivant maintenant. Ouais. C'est vraiment un aspect, moi j'avais pas pensé à ça, repas du Seigneur. Ok, je termine avec quelque chose. Et ensuite, je vais ouvrir pour les questions, mais je trouve ça quand même dommage et oui, révélateur qu'en tant que chrétien, souvent, on a beaucoup enseigné et on a rappelé l'importance de s'approprier le sang de Jésus. On a passé beaucoup à côté de l'importance de son corps et son esprit en nous. Son corps, c'est sa mort. Son esprit, c'est sa vie. Fait qu'on pense, hein, des chrétiens, on a le ticket pour le ciel, plus de péché, c'est réglé. Mais ça va bien plus loin que ça, le salut en Jésus-Christ. Alors c'est comme si, comme je disais avec les choses élémentaires, on est resté à la base, puis on n'a pas été plus loin. Puis, moi, tu sais, ça dit que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. J'ai passé à côté dans mon enseignement. J'ai pas, c'est une question d'enfance, c'est pas que je n'ai jamais parlé, mais je pense que j'ai pas été dans les proportions bibliques du 1 pour 10. Mais Dieu est bon, puis Dieu nous enseigne, puis c'est correct, là. Je veux dire, vous me tirez des tomates si vous voulez, là. Mais je pense qu'on est pas mal tous dans le même bateau. Là. C'est ça qui est beau, c'est qu'on découvre tout ensemble les merveilles de la grâce de Dieu. Amen. 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 Donc, le pain, le corps de Jésus-Christ qu'on se rappelle avec le repas du Seigneur, on doit le voir vraiment à la lumière de Romains 6, 1 et 2. Dieu a éliminé, remplacé le problème. Il a éliminé le problème, l'a remplacé par sa solution. Et c'est pour ça que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, totalement acceptée, aimée. Et c'est notre identité authentique. C'est pas juste une position, c'est pas juste une théorie. C'est vraiment ce que Dieu nous dit qu'il a fait de nous. Nous sommes son ouvrage. Il n'a pas dit si nous serons son ouvrage ou non, nous sommes son ouvrage. Et donc, que Dieu grave ça sur nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est la base. Puis là, avant de vous donner la question, je vous donne comme devoir. OK? Vous avez un devoir de prière, de Éphésiens 1. Parce que on est tous pareils. On connaît ces choses, mais les approprier, des fois, c'est parce qu'on ne se sent pas tout le temps bien, qu'on a nos raisonnements, comme j'ai dit. C'est vraiment de demander au Seigneur cette semaine, puis vous pouvez lire Éphésiens 1, puis à partir du chapitre 1, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre. Seigneur, révèle à mon cœur ces choses d'une façon, parce que ces choses sont spirituellement discernées. J'aurais beau en parler pendant deux heures, mais quand vous venez rouge comme une tomate, c'est l'Esprit qui nous enseigne.
Amen.
Puis c'est lui qui nous ouvre les yeux. C'est ça que ça dit dans ce passage-là. Donc, qu'on fasse vraiment demander à Dieu. Dieu, là, de se voir cette semaine, c'est Dieu. Montre-moi à apprécier, à voir c'est quoi que ça veut dire que je suis mort en Christ. Amen. Juste la mort. Parce que la semaine prochaine, on va aller avec la résurrection, mais là, juste mort. Mort au péché. Mort avec Christ. Okay? Juste ça. C'est notre devoir. OK? Pas très compliqué. Parce qu'en même temps, c'est ça. Je suis content qu'on étudie la parole de Dieu ensemble, puis une soif, puis un désir. Mais au bout du compte, le vrai enseignant ici, là, c'est pas celui qui se tient devant vous, là.
C'est Dieu.
C'est Dieu. Amen. C'est lui le vrai enseignant. Amen. Moi, je suis juste un sous-contractant. Avez-vous des questions? Des questions, quelqu'un? Des plaintes? Des chiolages à dire. Non?
Non.
Oui, Sylvie?
Une question. Que vous disiez que c'est pas juste seulement de dire oh, j'ai mon billet pour le film, mais que ça va plus loin. Alors, est-ce que ça veut dire que. Ben, j'ai pas tellement saisi parce que si quelqu'un pense qu'il y a un billet sur le ciel, il, d'après moi, puis c'est mon expérience personnelle, le salut n'a pas été manifeste. C'est pas. J'étais pas en Jésus parce que j'avais. J'étais encore à l'extérieur de l'arche, j'étais pas dans l'arche.
Oui, c'est un bon point. T'amènes. Si quelqu'un, sa compréhension du salut, c'est simplement, OK, j'ai un ticket pour le ciel, mais qui n'a pas l'expérience d'une vie nouvelle ici sur Terre, c'est ça que tu veux dire. C'est comme juste, OK, je vais au ciel, mais ça ne change rien dans son actualité. C'est ça que tu veux dire?
Compter celui qui a le Fils.
Ah, la vie.
Ah, la vie. Ouais. Ah, la vie, mais. Comme moi, puis Jésus, c'est quoi le péché? C'est quoi c'est, bon oui, quand tu crois, oui, éventuellement. Ouais. Donc, ton billet, c'est correct.
Ben, effectivement, c'est ça. Ça peut être un piège de quelqu'un qui n'a pas compris. Des fois, ça arrive avec un enfant qui était élevé d'une famille chrétienne ou quelqu'un qui n'a pas été exposé clairement à l'évangile biblique. Et là, juste comprendre ça de même. Donc oui, c'est possible, mais aussi c'est possible pour quelqu'un de... Ce que je voulais mettre l'accent, c'est quelqu'un qui reste aux choses élémentaires. Ouais. OK, je suis sauvé, ça, mais qui n'a pas appris à découvrir tout c'est quoi. Il a la vie en Jésus-Christ, puis il a des nouveaux désirs, OK, il est né de nouveau, mais il n'est pas encore tout éveillé, ou il n'a pas les yeux ouverts à tout ce que ça comprend d'être en Jésus. Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça peut être que quelqu'un n'a pas compris le salut en pensant que c'est juste une étiquette au ciel, mais quelqu'un peut dire, OK, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, je vais aller au ciel, puis il y a des nouveaux désirs, puis tout ça. Mais l'étendue de savoir ce qui s'est fait donner par Dieu, c'est minimal. Puis souvent, c'est ça avec les enseignements qui sont donnés. Oui, Jean-Pierre. Éric.
Oui. C'est donc dire que... Je pouvais dire ça comme ça, je veux dire, le salut, c'est quelque chose qui est effectif immédiatement quand tu l'as compris et que tu le demandes.
Oui.
Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est une marche quotidienne avec le Seigneur.
Oui. Oui. Ben, puis, mais il y a aussi, mais quand on est sauvé, par exemple, tu sais, Dieu nous donne un nouveau cœur, puis il y a une transformation. Qui est là aussi quand on est sauvé, mais c'est vrai que le renouvellement de l'intelligence, tu sais. Ben oui, de plus en plus, le Seigneur nous amène à comprendre, à voir des choses, tu sais, qu'on ne voyait pas partir. Qui comprenait au début de leur salut tout ce qu'ils comprennent maintenant, tu sais, c'est tellement grand que... Tu sais, au début, c'est ça. Ça prend une simple foi enfantine. On voit notre besoin, on se confie en Jésus, tu sais, puis on le reçoit comme notre sauveur. Mais effectivement, après ça, le renouvellement de l'intelligence, ça, c'est beaucoup... ouais, dans notre marche chrétienne, quand on apprend à le découvrir. J'ai-tu répondu à vos deux questions?
Oui, absolument.
Plus ou moins, pour être honnête.
Ben, c'est quoi qui était...
Bien, parce que vous dites, ensuite, ça va plus loin, c'est ça? Ça veut dire quelqu'un qui a juste cru intellectuellement et qui a un billet pour le ciel, il a juste à aller plus loin puis ça va être le ciel.
Non, pas du tout. Non, OK, mais c'est parce qu'on ne parle pas la même affaire. Okay. Moi, je ne parle pas de juste croire intellectuellement, là. Ça, quelqu'un qui fait juste croire intellectuellement qu'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit, il n'est pas sauvé.
Non.
OK? Ça, on s'entend là-dessus. Ouais. Mais quelqu'un peut croire avoir été sauvé réellement, mais rester au petit lait.
C'est ça.
OK? Ça, c'est possible. Mais en même temps, je comprends qu'aussi le Seigneur va faire un œuvre, tu sais, mais tu sais...
Parce qu'il y a le Saint-Esprit, si il va le faire grandir.
Oui, c'est ça.
Mais s'il y a juste son bien pour le ciel... Il n'y aura pas de fruit de l'esprit.
Non, c'est ça.
Il peut même penser qu'il l'est, là.
Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est juste une foi intellectuelle, puis il a reconnu des choses, mais que ça ne l'a pas affecté son cœur, ça l'a pas. Non. Ça l'a pas été. Tu sais, il s'est allé ici, puis c'est pas descendu ici. Non, effectivement. Oui. Josiah?
Juste quelque chose par rapport de ce que Eric a dit, juste. Le salut, oui, ça. C'est effectif, c'est suffisant pour nous. Mais c'est comme de grandir dans la grâce de Dieu. Tout est là pour nous. C'est de saisir.
Oui.
C'est d'appliquer ça. C'est comme ouais. Si on a un char qui est vide de gaz, ça ne sert à rien. Si on le remplit, c'est suffisant, mais ça ne sert à rien si on ne tourne pas les clés et aller. Mm-hmm. Alors, c'est pour dire que tout ce qu'on a besoin est là, mais juste pour apprendre ce qu'on a déjà en Jésus, mm-hmm. d'utiliser ça.
Souvent, c'est ça. La vie chrétienne, c'est découvrir tout ce qu'on a en Jésus. C'est ça. C'est tellement grand que là, on s'en rend compte, plus on grandit. Puis là, puis ça, c'est pas juste d'ailleurs une découverte intellectuelle. Ah, non, c'est par la foi. Parce que souvent, c'est dans la souffrance. Puis là, on se rend compte, hein, je suis donc bien faible, je suis pas capable par moi-même. Puis là, ah, ben oui, c'est ça, apprendre que sa grâce est suffisante. Faut qu'on soit dans la faiblesse pour ça, tu sais. Fait que, ouais. Oui, Annonciata?
Bon, je vais encore un peu demander l'exercice. Moi-même, si j'ai l'idée, on reçoit la parole comme on vient de la recevoir, la parole qui change. Je crois à la parole, mais quand même, je tombe dans les tentations. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Puis, qu'est-ce qui va m'aider à avancer, à rester penché sur Christ, qu'est-ce qui va m'aider?
Bon, mais c'est là, puis bon, là, je vais donner une réponse courte. On fait quand même toute la série sur Romains pour répondre à ces questions-là, parce que la question, c'est comment Dieu nous donne la victoire sur le péché, comment on s'approprie cette victoire qu'il nous a donnée. Mais pour répondre à ta question, si j'ai bien compris, là, c'est toujours se ramener à ce que Dieu a fait comme étant notre réalité. Que ce que je suis, même si je me sens pas comme ça, puis même si je suis pas habitué, c'est ce que Dieu a fait de moi, c'est la réalité. Puis de là, j'agis par la foi. Fait que pour le mettre dans les mots de Galates 2:20, puisque j'ai été crucifié avec Christ, ok, c'est réglé. Je suis mort avec Christ sur la croix, en Jésus. Mais là, maintenant, c'est plus moi qui vis. T'sais, c'est plus moi qui essaie tellement fort, puis j'essaie pendant des années, let's go, mon expérience de Romains 7, puis je suis arrivé à misérable que je suis, qui me délivra de ce corps de mort. C'est plus moi ça, c'est fini. Maintenant, c'est Christ qui vient en moi. C'est là qu'on se l'approprie, c'est quand qu'on voit, c'est plus moi qui essaye, c'est moi qui me confie, j'ai un changement de dépendance. Je dépendais de moi, mes mécanismes de défense, mes façons de répondre aux choses. Dieu brise cette dépendance. Et maintenant, c'est Christ qui vient en moi, et cette dépendance-là, c'est par la foi au Fils de Dieu. Donc, j'apprends une nouvelle dépendance par la foi. Ma confiance passe de moi avec mes moyens. Tu sais, j'en parlais un matin, il y en a qui babounent, il y en a qui ne parlent plus, il y en a qui se mettent en colère. Ça, c'est nos mécanismes, ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui vis. Mais là, quand que en Jésus-Christ, j'apprends Christ, que lui qui vit en moi, par la foi, j'apprends à le laisser s'exprimer, ben là, c'est la dépendance n'est plus en moi. Parce que c'est plus ma réponse automatique. Hey Dieu, là je dépends de lui. Là. Puis là, c'est son fruit. C'est pas un truc. C'est pas une affaire à faire. C'est une confiance à mettre. Puis ça porte du fruit. Du fruit, c'est pas quelque chose que tu tires après, que tu fabriques. Ça se produit. Christ en moi. Oui, David?
Juste pour encourager ma soeur. Un gros encouragement pour moi dernièrement, c'était à méditer vraiment à Colossiens 3.
OK. Au complet, là, Colossiens 3.
Il y a certaines versets clés.
Mais tu sais, c'est bon parce que ça commence à regarder aux choses d'en haut. Puis là, ça dit car votre vie est cachée. On va en parler dans le prochain message. On va en parler bientôt dans la référence parallèle. Mais oui, effectivement, Colossiens 3, là. Il y a du bon stock là-dedans par rapport à ça, justement, puis de vivre d'une position de mort au péché, vivant pour Dieu. Oui, Colossiens 3, c'est très, très... Ouais, amen. Amen! Oui, ouais, charmante!
Pour appuyer sur ça, moi, je trouve que c'est mieux fixer les yeux sur Jésus-Christ.
Mm-hmm.
C'est là, c'est lui qui vainc toutes choses. Mm-hmm. Même Jésus a été tenté. Mais il a été vaincu les tentations, il a été fort, il a dit au serpent qu'il était ce jeu, quand le serpent lui montrait la gloire, tout ça, mais Jésus, lui qui était là, il a vaincu, il a dit que c'est pas seulement par la gloire que je vis, c'est la gloire de mon Père que je dois faire. Mais toutes ces choses, ça montre que si on prend, on met les yeux sur Jésus-Christ seul et vive la foi là de Jésus-Christ, mm-hmm. rien ne pourra nous séparer de toute chose, de ta passion.
Amen.
Mais les épreuves aussi existent aussi.
Puis pour former Christ en nous,
oui,
c'est dans son amour qu'il nous éprouve.
Oui,
oui.
Les épreuves, on ne peut pas les oublier là.
Mm-hmm.
Parce que nous tous, nous qui sommes dans le Christ, nous sommes prouvés pour que, pas la parole, la parole nous fait toujours fortifier, pas les épreuves.
Mm-hmm.
On doit être précieux que l'or, car on
Amen.
Est Christ.
Amen. Amen. Wow, c'est vraiment... Vas-y encore, bro! Oups!
Ah, bro, là... J'ai lu un livre, là... Vous connaissez ça, je pense, c'est... Reclaiming the Crowns.
Oui.
C'est le pasteur Maladio qui m'a donné ça.
Oui, oui, très bon.
Oui, à date, c'est très bon. J'ai juste au début, là...
Sur la guerre spirituelle.
Exactement. Puis tu sais, il y a un point, là... Qu'en Occident, on reconnaît pas beaucoup, là... Tu sais, les démons, là...
Mm-hmm.
Puis tu sais, il y a un point où ce que... On reconnaît peut-être pas que c'est Satan qui nous dit « Ouais, là, t'es pas si une nouvelle créature que ça. Là, check t'as péché, là. Mm-hmm. Là, c'est... check ouais. tes pensées étaient donc bien pas bonnes. Là, check c'est absolument tes pensées. Là, ça vient absolument de toi à 100%. »
Oui, c'est ça. Satan nous fait penser ses accusations comme venant de nous-mêmes.
Mm-hmm.
« Je suis un pourri, je suis... » C'est pas le Saint-Esprit qui nous dit ça. Mm-hmm. C'est, tu sais, Satan est capable de nous
ouais.
nous inciter ces pensées-là, oui.
Donc,
c'est vrai.
Intéressant comme principe en lien avec ça.
Oui, absolument. Donc, absolument.
On a nous-mêmes, c'est un gros problème, là. Ben, nous-mêmes, notre chair, je veux dire.
Mm-hmm.
Mais on a Satan, là. Puis
l'accusateur de nos
frères. Puis en gros, le livre, ce que ça dit reprendre le terrain qu'on a laissé à Satan, puis dans le fond, on ne peut pas le reprendre nous-mêmes, mais en Christ, Christ l'a gagné pour nous. Tu sais, en tant que chrétien, on n'essaie pas d'obtenir la victoire. On l'a, puis on vit selon ça. On dit, hey, t'as pas d'affaire là, Satan. Jésus a déjà conquis, là. T'es pas chez vous, là. Fait que c'est reprendre, justement, selon ce qu'on est en Jésus-Christ. Satan n'a plus de droits sur nous autres. C'est Christ qui a tous les droits sur nous autres. Mais ce qu'on a fait, puis qu'on peut continuer à faire avec le péché, c'est lui donner ces droits-là. Ça dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, avec ma colère, je peux donner de l'accès à Satan. Même chose avec l'amertume, tu sais, pas pardonner, tout ça. Fait que là, c'est... Fait... Ouais, en tout cas.